nous sommes arrivés à la gendarmerie vers 6 heures du matin. Philippe nous a demandé de l'attendre, et il a été sonné à l'interphone de la porte d'entrée. Il a discuté un moment avec une très belle femme d'une quarantaine d'années en uniforme, et au bout d'un moment, il nous a fait signe de le rejoindre. Alexandre est sorti de la voiture, et sa course s'arrêtait ici, sur le parking de la gendarmerie. Avant de se rendre, il a demandé la permission d'embrasser sa mère, ce que la femme lui a accordé d'un signe de tête, et il t'a embrassé. Il a embrassé Philippe, et m'a adressé un vague salut du bout de ses doigts ensanglantés, après quoi nous l'avons regardé entrer dans la gendarmerie, le souffle court et les mains tremblantes. Et il s'est retourné vers nous, une dernière fois, quand tu as crié son nom. Jeune fille à la fontaine. En rencontrant Pierre-Marie Romani, la journaliste fut d'abord déçue qu'il ne ressemblât en rien au criminel redoutable dont elle avait promis le portrait au rédacteur en chef du magazine de faits divers pour qu'il consentît à l'envoyer en reportage. Elle imaginait mal ce jeune homme pâle et timide à l'air touchant mais parfaitement inoffensif, devenir le héros de l'histoire tragique qu'elle espérait voir publiée sous le titre « Pour l'honneur, à la rencontre des derniers bandits » dans l'édition spéciale de mars 1933. En accord avec son photographe, elle commença par convaincre Pierre-Marie de changer de tenue. Dans le costume croisé à rayures fort mal coupé qu'il portait avec faux col, fine cravate grise et chapeau melon, il ressemblait à un commis de bureau endimanché pour une noce ou une première communion. Ni le Colt 45 modèle 1911 glissait dans sa ceinture, ni le fusil à pompe Winchester d'une décevante modernité pendant à son épaule ne parvenait à atténuer cette fâcheuse impression. Leur présence ajoutait seulement au tableau une touche incongrue. Dans le monde impitoyable de la presse à sensation, expliqua la journaliste à Pierre-Marie, la vérité ne se suffisait, hélas, pas toujours à elle-même. Et si l'on voulait qu'elle fût connue, il fallait paradoxalement se résoudre à lui faire subir de subtiles altérations cosmétiques pour la rendre plus séduisante et plus conforme à l'idée que les lecteurs s'en faisaient. En l'occurrence, il s'agissait seulement de faire en sorte que Pierre-Marie incarnât plus adéquatement l'image de péril exotique que tous attendaient. Il le comprit parfaitement mieux qu'elle ne pouvait le deviner, et accepta donc d'adopter une nouvelle panoplie consistant en une veste de chasse en velours côtelé, un bonnet pointu et une large ceinture de flanelle rouge dont il fit remarquer qu'elle lui donnerait l'allure d'un péquenaud. Mais qu'il finit par nouer autour de sa taille quand la journaliste lui eut assuré que les lecteurs de son magazine ignoraient tout des codes vestimentaires de la ruralité méditerranéenne. Il troqua également son Colt et sa Winchester contre un antique fusil de chasse à chien et une espèce de pistolet de pirate. Deux cartouchières en bandoulière, croisées sur la poitrine à la manière des révolutionnaires mexicains, vinrent compléter son arsenal. Et c'est dans ce costume que Pierre-Marie Romani entra dans une modeste postérité. Toute la journée, il prit la pose de bonne grâce devant l'objectif du photographe, épaulant son fusil pour viser des ennemis invisibles dont il se prenait à souhaiter qu'ils fussent réels, se tenant fièrement debout parmi les châtaigniers comme le souverain d'un royaume secret, et puis assis, les yeux perdus au-dessus de la plaine vers la mer lointaine, serrant dans ses bras un agneau dont il sentait les battements de cœur affolés contre sa poitrine tandis que le vent faisait onduler les mimosas sauvages et dispersait dans le ciel bleu de l'hiver des nuages de poussière dorée. Au coucher du soleil, il prépara un feu sur lequel l'agneau, dont la contribution artistique n'était plus requise, fut mis à cuire. Et la journaliste demanda à Pierre-Marie de lui raconter son histoire. Il n'oublia pas ce qu'elle lui avait dit sur la nécessité d'embellir les vérités ingrates. Il raconta l'histoire de sa pauvre sœur Eugénie, déshonorée par un monstre sans scrupules qui, non content de lui avoir brutalement ravi sa virginité, n'avait pas hésité à se vanter de son crime odieux dans toute la région. Il parla de la force du devoir qui l'avait conduit, lui, Pierre-Marie, à renoncer au brillant avenir auquel il était promis pour venger la pauvre innocente qui avait dû partir d'ici.